Panorama Économique.
Bonjour et bienvenue, messieurs, dames, à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres, la paye des fonctionnaires et agents de l'État pour le mois d'octobre a connu un retard et à la base, la notification de l'Association congolaise des banques réclamant les frais de transaction non versés par le gouvernement. Et nous parlerons également des mines de la RDC au centre de la 10e édition de l'IPAD 2014 clôturée jeudi à Kinshasa. Et puis la Fédération des entreprises du Congo, Tshikapa, qui appelle les autorités politico-administratives locales de communiquer pour l'exécution, de communiquer sur l'exécution du budget de leurs entités territoriales. La FEC veut ainsi pousser les gouvernants provinciaux à plus de clarté dans la gestion des projets. Toute l'actualité économique de la semaine est commentée et analysée sur Radio Capi et cette semaine nous recevons Gabi Kouba qui écrit dans le magazine Ressources Naturelles. Gabi est avec nos studios. Gabi, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Oh, bonjour Daniel.
Et devant ce micro, dans ce studio, Daniel Tambinzoni, François Kadima, pour vous présenter la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Capi. François, bonjour.
Bonjour Daniel.
Panorama économique, le dossier.
Ce nouveau numéro Panorama économique part de Kinshasa. Kinshasa où, contrairement au mois précédent, la paye des fonctionnaires de l'État pour le mois d'octobre n'a débuté que mercredi 22. François.
Les banques commerciales qui assistent le gouvernement dans cette opération de bancarisation ont retardé la paye. Elles voulaient juste pousser le gouvernement à respecter les protocoles qui les lient dans cette opération, c'est-à-dire le frais des transactions qui n'étaient plus versés depuis les débuts de l'année. Mais après leur entretien lundi avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'ACB a décidé de lancer la paye. C'était au cours d'un point de presse tenu mardi à Kinshasa après la promesse du gouvernement à payer les arriérés des prestations des banques congolaises. Nadine Fulantimba pour le reportage.
Après une réunion avec le Premier ministre, l'association de banques congolaises accepte de démarrer enfin la paye du mois d'octobre. Sur le 10 mois d'arriérés de paiement de prestations des banques commerciales par le gouvernement, ce dernier a payé 3 mois, ce qui permettra tant soit peu à l'ACB de prendre en charge le coût de la logistique de la bancarisation de paye des agents et fonctionnaires de l'État. On écoute Madame Félicité Singa, première vice-présidente de l'ACB et DG des Fibank.
Nous informons notre aimable clientèle, agents et fonctionnaires de l'État que l'ACB s'est réunie en comité de direction extraordinaire ce jour et vient d'y décider de la reprise des opérations de la paye à partir de demain, mercredi 22 octobre 2014.
Pour rappel, dans une note d'information adressée aux agents et fonctionnaires de l'État, l'ACB avait annoncé un retard dans la paye pour ce mois d'octobre. À la base, le banque commerciale partenaire du gouvernement dans la bancarisation n'était pas rémunéré pour leurs prestations depuis le mois de janvier 2014, ce qui ne le rendait pas en mesure d'assumer le coût important que représente la logistique d'une paye apaisée et des proximités sur toute l'étendue du territoire national. Soulignons que la paye du mois d'octobre est très attendue par les agents et fonctionnaires de l'État car une augmentation des 17 000 francs promis par le gouvernement devait être effective pendant ce mois d'octobre.
Voilà, et cette paye, elle a commencé le mercredi 22 octobre. Espérons que les choses se sont passées comme attendaient les fonctionnaires de l'État. Gabi, vous commentez l'actualité avec nous. La paye a été retardée parce que le gouvernement, encore une fois, n'a pas été à mesure d'honorer son de verser les frais de transaction aux banques commerciales et ça a retardé un peu les choses. Il faut toujours attendre que les gens s'énervent un peu pour qu'on bouge, qu'on se rappelle ses devoirs.
Oh bon, c'est peut-être une erreur de la part du gouvernement parce qu'il ne fallait pas attendre cette réaction des banques pour honorer les engagements. On sait que 10 mois, c'est trop pour les opérations bancaires. L'Association congolaise des banques a pris cet engagement avec le gouvernement depuis l'opération des bancarisations des agents et fonctionnaires de l'État. Et ça fait pratiquement 10 mois, c'est-à-dire depuis le mois de janvier jusqu'ici. Les banques n'ont pas encore perçu les frais de transaction que le gouvernement devrait leur verser. Et ça a connu leur état. Disons que depuis l'opération, le lancement lancement de l'opération de la bancarisation des agents et fonctionnaires de l'État. On n'a pas encore connu assez de retard comme ces mois-ci. Je me rappelle bien, au cours de cette année, le gouvernement a même surpris les fonctionnaires de l'État pendant un mois en payant les 12, ce qui n'est jamais arrivé depuis plus de 30 ans. Alors, lorsqu'on arrive les 25, les 26 et que rien n'est encore fait, je crois que cela soulève une inquiétude de la part des agents et fonctionnaires de l'État et de tous ceux qui émargent du budget de l'État. Et lorsque j'ai visité la plupart des banques, après la décision, après la réunion de l'Association congolaise des banques et le gouvernement, la primature, on a levé cette mesure, et les banques ont accepté de payer, mais la paix n'est pas encore effective dans toutes les banques. Depuis avant-hier, j'ai essayé de sillonner dans certaines banques ici, dans la capitale, l'opération n'est pas vraiment effective.
Alors, j'ai posé la question pour savoir pourquoi.
Ah oui, j'ai posé la question pourquoi, parce qu'il faut il faut ajuster. Alors, ça dépend également. Il n'y a pas seulement que l'affaire des banques, parce qu'il faudra harmoniser, par exemple, les listings qui viennent de la fonction publique. Il faudra également créditer les comptes. Il faudra aussi déployer certains, parce que dans certaines provinces, par exemple, où les agences n'existaient pas, les banques sont obligées d'effectuer des longues distances. Et là, ça ne peut pas se faire en une semaine, parce que vous avez un territoire immense où il n'y a même pas, dans la plupart des provinces, où il n'existe presque pas des routes. Donc ça va réellement prendre beaucoup de temps. Et même ici à Kinshasa, j'ai été hier avec certaines délégations syndicales du ministère de l'Intérieur, par exemple, ici à Kinshasa, où le problème logistique ou le problème de transport ne se pose même pas, l'opération n'est pas encore effective. Mais je pense qu'avec la décision de l'Association congolaise des banques, qui a accepté de payer, certaines banques ont déjà commencé à payer, certains ministères, et dans les jours qui suivent, l'opération sera réellement effective. Mais dans les provinces, il faut comprendre que ça va durer, parce qu'on pourra entamer même le mois de novembre.
Et puisqu'on ne communique pas assez sur des choses comme celle-là, on ne sait pas vraiment savoir à quoi était dû ce retard dans le versement de la prestation des banques.
Ah oui, j'ai posé cette question à un responsable du ministère du Budget. D'abord, combien? Mais vous savez que l'info la plus difficile à obtenir, c'est l'information économique. Et personne ne voulait donner de chiffres, avancer un quelconque chiffre sur les montants qui devraient être alloués.
Même au niveau de la CB, on ne communique pas.
Alors, pourquoi,
même au niveau du gouvernement,
pourquoi ce retard, alors que la régularité des fonctionnaires de l'État, même les frais des tenues bancaires qui devraient être retranchés dans les salaires des fonctionnaires de l'État qui ont au moins 92 000 francs, l'opération a déjà été effective, mais on ne sait pas pourquoi le gouvernement n'a pas honoré les engagements vis-à-vis de ses partenaires qui sont des banques privées.
Surtout que la bancarisation a permis au gouvernement de se faire des économies.
Ah oui, ça a permis au gouvernement de faire des économies, mais maintenant, comment on gère ce qui a été récupéré à travers la fiabilisation, par exemple, des listes, la maîtrise des effectifs et des agents et fonctionnaires de l'État? Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a fait. Où est-ce qu'on a affecté, dans quel secteur on a affecté ces recettes qui ont été récupérées, et pourquoi les banques n'ont pas été payées depuis 10 mois? Cela est dû à quoi? C'est la réponse que nous attendons, parce que dans la déclaration qui a été faite par l'un des responsables de la Banque centrale qui est chargé du suivi de la politique monétaire et de la paix des agents et fonctionnaires de l'État, il a dit tout simplement qu'un compromis a été trouvé. Mais lorsqu'on lui pose la question, qu'est-ce qui peut justifier ce retard dans les engagements que le gouvernement avait conclus avec les fonctionnaires de l'État? On n'a pas obtenu une réponse quant à ce retard.
Vous l'avez dit, c'est difficile d'obtenir des informations économiques, surtout sur des points aussi sensibles comme celui-là. Nous vous gardons, Gabi, et c'est pour parler maintenant de la 10e édition de l'IPAD, où vous avez également activement pris part. Elle a été très très intéressante par la qualité des débats qu'il y a eu. Mais avant de vous donner la parole, Gabi, je vous propose d'écouter l'entretien que nous avons eu avec Nicole Smith, qui est la directrice générale de l'événement.
Cette année, nous célébrons la 10e édition de IPAD RDC, Mines et Infrastructures Indaba, conférences et expositions. IPAD était lancé en 2005. C'était une petite conférence internationale pour attirer les investisseurs en RDC. Les secteurs clés que nous avons soulignés en 2005, c'était le secteur des mines et de l'énergie. Aujourd'hui, après 10 éditions, nous sommes très fiers d'annoncer que IPAD est une marque très très bien connue et respectée dans le secteur minier au Congo. Et je crois que la conférence exposition IPAD évolue avec le pays, avec l'économie de la RDC. Grâce à le soutien du gouvernement congolais, grâce à le soutien de Chambre des Mines, grâce au soutien de tous les opérateurs miniers au Congo, IPAD est devenu un événement très très important et essentiel dans le calendrier des hommes d'affaires locaux et internationaux qui ciblent sur le secteur minier en RDC. Et aussi notre développement il y a 5 ans que nous avons lancé une branche d'IPAD, le Katanga Mining Week à Lubumbashi, pour mettre
un accent particulier.
C'est ça, mettre un accent particulier sur le Katanga, le cuivre, le cobalt, les ressources de cuivre et cobalt.
Mining Week, c'est une branche, une deuxième branche que vous créez de l'IPAD RDC. Et ça marche bien.
Ça marche très bien. Nous mettons l'accent sur comment on fait les affaires au Katanga, comment on peut accéder à ce marché et les ressources de cobalt et cuivre. Et aussi, on parle des synergies sur le copper belt avec la Zambie. En fait, cette année, la 5e édition de Katanga Mining Week à Lubumbashi, qui aura lieu la semaine prochaine, nous allons accueillir une délégation zambienne à la tête le ministre des Mines et de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques de la Zambie. Ils viennent avec sa délégation, aussi le président de la Chambre des Mines en Zambie. Ils vont visiter la RDC, ils commencent au Katanga.
Cette année, vous avez reçu combien de personnes, combien d'exposants cette année?
Cette année, nous avons 21, plus que 23 exposants, beaucoup de visiteurs et délégués. Nous estimons que c'est environ 300 personnes les derniers 3 jours à Kinshasa et nous attendons presque 500 personnes à Lubumbashi.
Mais pourquoi seulement Kinshasa et Lubumbashi alors qu'il y a des minerais aussi en province orientale avec Kibali Gold qui exploite l'or, au Kassai il y a aussi les diamants, ça ne vous intéresse pas?
Bien sûr, nous attendons avec beaucoup d'anticipation à lancer IPAD dans les autres provinces importantes de la RDC. Nous avons lancé il y a 5 ans au Katanga, après 5 ans là-bas, nous pensons que c'est maintenant le bon temps de lancer un IPAD dans l'Est du pays et nous sommes ouverts de faire ça où il y a la demande. Nous pouvons le faire à Bukavu, à Goma, à Kisangani, il n'y a pas de problème. Nous avons l'intérêt de nos participants qui viennent à Kinshasa et à Lubumbashi. Ils veulent voir aussi, comme nous, le reste du pays et développer les autres opportunités économiques que le pays offre.
Nicole Smith, merci.
Merci à vous, Radio Okapi.
Nicole Smith, qui patronne, qui chapeaute cette conférence-exposition de l'IPAD, Gabi, Kuba, vous commentez l'actualité de la semaine avec nous. Vous êtes dans les ressources naturelles et je pense que vous avez nagé comme un poisson dans l'eau lors de ces expositions, de ces conférences. Nicole Smith dit que l'IPAD a commencé comme un petit jeu et aujourd'hui, elle est devenue un grand rendez-vous dans les agendas des hommes d'affaires, aussi bien congolais qu'internationaux.
Oh oui, moi personnellement, je suis parmi les journalistes qui ont couvert cet événement depuis 2004. Donc j'ai couvert les 10 éditions pratiquement. IPAD, il faut préciser pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est d'abord la société sud-africaine spécialisée dans les événements, Spint Intelligent, qui organise cet événement. Et au Congo, c'est la 10e édition. Et ils ont également les volets pétrole et hydrocarbures que cette société organise aussi en République démocratique du Congo. Ça fait pratiquement 10 ans. C'est une bonne activité. Dans la mesure où cet événement permet de regrouper les opérateurs économiques de plusieurs secteurs. Il n'y a pas seulement que les miniers, vous avez ceux qui opèrent en mer, il n'y a pas seulement que des discussions entre les opérateurs économiques, vous avez également les opérateurs économiques qui discutent avec les gouvernements,
les politiques
de la République,
ouais.
Donc partenariat public et privé, partenariat privé-privé, partenariat aussi public et public, parce qu'il n'y a pas seulement que le gouvernement congolais. Vous avez suivi Madame Nicole Smith qui vous dit que le ministre des hydrocarbures, le ministre des mines de la Zambie seront à Lubumbashi la semaine prochaine. Mais cet événement permet de mettre ensemble, ça mobilise les hommes d'affaires du monde entier. C'est un peu ce que l'on fait en Afrique du Sud, Indaba Mining, qui se tient chaque année, au mois de janvier, au début de chaque année, en Afrique du Sud, à Cap Town précisément. C'est un peu la copie de ce qui s'est passé ailleurs. Mais chez nous, on a eu par exemple les journées minières, on a par exemple les expositions à la Fikine, mais ça n'a pas vraiment
cette ampleur là,
oui. Ça n'a pas cette dimension. Il y a peut-être un problème d'organisation au niveau interne, parce que là, c'est une entreprise qui organise. Moi, personnellement, j'ai toujours encouragé et félicité l'initiative privée. Moi, je suis des tendances capitalistes, donc il n'y a pas de honte et à le dire. J'aime vraiment que des pareilles activités soient organisées par IPAD. Mais une question se pose et en ce qui concerne l'IPAD. On a, par exemple, certaines ONG qui estiment que l'IPAD ne fait pas assez. Mais il ne faut pas attendre que l'IPAD fasse plus que ce que les hommes d'affaires ou ce que le gouvernement peuvent faire. Suite Intelligence, c'est une société spécialisée dans les événements. Donc, on organise un cadre pour que les hommes d'affaires discutent ensemble, échangent, on échange les opportunités. On vous montre les opportunités, on vous montre ce qu'il faut faire, on vous met en contact avec les décideurs. C'est une énorme opportunité que ces forums offrent aux hommes d'affaires et aux investisseurs du monde entier, ainsi qu'au gouvernement. Ça permet également au pays d'avoir une visibilité, parce que même au niveau des médias internationaux, c'est plus cet aspect apocalyptique qui a prévalu depuis des années. Mais aujourd'hui, les gens oublient qu'au Congo, c'est un milieu où l'on peut faire des affaires. J'ai entendu, par exemple, la question que vous aviez posée. Et cette question, je l'ai posée maintes fois. Pourquoi il parle seulement à Kinshasa et à Lubumbashi? C'est vrai. Lubumbashi, c'est le poumon de l'économie du pays. Et Lubumbashi, c'est l'épicentre même du secteur minier. Mais les gens oublient que dans les années à venir, les provinces de l'est du pays pourrait bousculer la province du Katanga.
Parce qu'il y a d'autres,
oui, il y a du pétrole, et il n'y a pas seulement
il y a d'autres, oui, il y a pétrole, il y a d'autres minerais qui sont découverts chaque jour.
Par exemple, les minerais de la dernière génération qui entrent dans les high-tech, c'est dans les provinces de l'Est, au nord, au sud, Kivu, au Maniema, en province orientale. C'est que Kibali a fait, par exemple, l'aspect de l'insécurité, c'est vrai. Marc Bristol le dit souvent. À l'époque où j'étais en Afrique du Sud et à Londres au Canada, ceux qui suivaient, par exemple, des informations sur les Congo, aucun opérateur économique et sérieux ne pouvait investir des milliards. Mais il a pris ce risque d'aller en province orientale aujourd'hui, et la partie qu'il occupe, c'est pratiquement une partie qui balise, c'est une zone stable où il n'y a pas assez de sécurité. C'est vrai que des problèmes peuvent exister de gauche à droite, mais aujourd'hui, certaines entités de l'est du pays sont devenues fréquentables. Pour revenir à ce que nous étions en train de dire, je crois que les organisateurs de l'IPAD m'ont répondu de la même façon. Ils ne voient pas d'inconvénient. Si jadis les gens pouvaient hésiter d'organiser une conférence à Goma, à Bukavu, à Kisangani, parce que ça tirait, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La paix est en train de revenir peu à peu. C'est vrai, certaines zones d'insécurité existent, mais l'insécurité telle qu'on l'avait propagée à travers les médias internationaux, à travers certaines structures, donc ce n'est plus l'insécurité n'est plus à l'ordre du jour comme c'était à l'époque. C'est vrai qu'il faut pacifier l'ensemble de la République, parce que même pendant la conférence, les gens ont soulevé, vous savez que l'argent n'aime pas de bruit, et les gens ne peuvent pas aller investir là où ça tire, là où il y a des groupes armés, donc ça ne marche pas avec les investissements.
Oui.
Et il faut comprendre que l'insécurité est liée aussi à la pauvreté. La plupart des gens que vous voyez, par exemple les milices qui opèrent et à Walikale, et c'est souvent dans des zones minières où les entreprises n'existent pas. Et lorsque vous avez des entreprises qui existaient, qui ont déployé de gros moyens, qui paient des gens correctement, et lorsque l'État a restauré l'autorité sur l'ensemble de la République, moins de jeunes gens seront tentés à prendre les armes pour créer cette insécurité. L'insécurité est liée en partie à la pauvreté, et c'est lié aussi au manque d'investissement. Je ne vois pas un cadre dans une entreprise prendre les armes pour entrer dans une brousse et créer l'insécurité. C'est normal. Donc c'est anormal. Et cette situation, je crois que l'IPAD doit aussi montrer la voie aux investisseurs dans la partie est du pays. Et le pétrole dont on parle ici, les gens voient plus le plateau continental au Bas-Congo, mais on oublie que le Graben Albertine présente d'énormes opportunités. Vous avez le rift est africain qui va par exemple de la province orientale jusqu'au Katanga, et on a des indices du pétrole. Vous avez une société qui a mené des études et qui a révélé des indices. Vous avez aussi Total qui s'est installé du côté ougandais, qui vous avez des blocs. D'ailleurs, une société Oil of Congo du groupe Fleurette International vient de découvrir du pétrole sur les deux blocs qui lui ont été attribués
pour dans les explorations.
Dans les Graben Albertine. Je pense qu'on ne se trompe pas. Et demain, comme je l'ai dit tantôt, les régions de l'Est pourraient bousculer l'ordre établi, entre guillemets, c'est-à-dire le Katanga pourrait ou ne plus
avoir de bons concurrents valables.
Donc le pool économique pourrait même se déplacer de l'Ouest vers l'Est.
Et je pense que il ne faudra pas attendre ce que l'IPAD fasse tout.
Non, ce n'est pas l'IPAD, c'est une initiative privée. Ça doit entrer dans le programme des investissements du gouvernement. Et qui dit des investissements du gouvernement? Moi, je ne suis pas un communiste qui attend que l'État crée des entreprises. J'attends que l'État fasse appel aux vrais investisseurs qui vont développer des projets viables et réunir toutes les conditions, faire appel aux majors qui dans les secteurs pétroliers, faire appel aux grandes sociétés, et si l'État a de moyens, soutenir aussi les nationaux. Si l'État a de moyens, il peut aussi entrer en concurrence avec les investisseurs, avec les investisseurs privés.
Je te sens, Gabi, c'est vraiment un technicien du secteur des ressources naturelles, mais je vous garde le temps de prendre ce troisième dossier de la semaine qui nous conduit au Kasaï occidental.
La Fédération des entreprises du Congo, FEC, Tchikapa, appelle les autorités politico-administrative locale a communiqué sur l'exécution du budget de leurs entités territoriales. Le président de la FEC, Tchikapa, a lancé cet appel lors d'un échange avec la presse locale. Selon Albert Kambila, il n'y a pas de visibilité dans l'exécution des projets à caractère social. Il parle également des difficultés dans le fonctionnement des entités administratives malgré les taxes payées. Albert Kambila s'exprime ici au micro de Joseph Mwamba de la radio Kilimanjaro.
Nous demandons aux autorités des entités territoriales décentralisées de nous présenter la réalisation de ce qu'ils ont reçu et à quel pourcentage on est parti avec ce budget pour que nous puissions nous fixer. Puisque nous ne pouvons pas continuer toutes les années, on doit payer les taxes locales, mais on ne voit absolument rien qui se fait sur le terrain. Et si les autorités parlent souvent de rétrocession, mais les taxes locales que nous sommes en train de payer, les frais ne sont pas investis. Ça nous déroute dans le sens où on n'arrive pas à comprendre. Ou bien nous travaillons ces taxes, nous les payons seulement pour la vie des autorités, ou bien ça profite aussi à la population.
Voilà, c'est un sérieux problème. La taxe doit, de sa nature, avoir une contrepartie. Et je pense que la FEC Tchikapa a raison de lancer cet appel-là. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites des taxes que nous payons? Et je pense que, Gabi, ce n'est que naturel et c'est du droit.
Oh oui, publier ce que vous payez, et donc il faut appliquer la transparence à tous les niveaux. La rétrocession est de 40% pour les provinces, mais les provinces également doivent rétrocéder leur 100%, les 40% aussi aux entités territoriales décentralisées. Et la position de la FEC est tout à fait normale. Vous avez assisté avec moi hier lors du débat, et il y a même des intervenants. La notion, par exemple, de la responsabilité sociale des entreprises,
justement.
Les gens disent que les entreprises ne font pas assez pour les communautés locales.
Oui.
Mais les entreprises ne peuvent pas se substituer à l'État. Donc, c'est l'État qui a l'obligation de construire, par exemple, les routes, de donner de l'eau potable. Il ne faut pas tout de réhabiliter les écoles, de payer les enseignants. Quand bien même qu'une entreprise a construit une école ou l'a réhabilité, a réhabilité un hôpital, allez-vous demander à une entreprise de payer le médecin, les infirmiers, et les enseignants qui travaillent dans ces écoles?
Pas du tout.
Non, vous n'allez pas faire ça. Alors, ce que la FEC demande, ce n'est pas seulement le territoire du Tchikapa, c'est pour l'ensemble de la République. Et je pense que la position de la FEC Tchikapa est une position nationale.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine est lundi. Nous parlions de plus de 4 tonnes de liqueurs et autres produits interdits de fabrication et de commercialisation en RDC, produits saisis le week-end dernier, puis incinérés cette semaine par les agents de l'Office congolais de contrôle au poste frontalier de Lufu. C'est à près de 140 km à l'est de Matadi. La plupart de ces produits sont de fabrication angolaise, chinoise et turque, selon le responsable de l'OCC. C'est la cinquième saisie en l'espace d'un mois au niveau de ce poste frontalier de Lufu.
Abandonnant Idiofa dans le Bandundu, où c'est plutôt la hausse de recettes à la direction générale de recettes administratives d'Idiofa pour la période 2013-2014. Idiofa est situé à plus de 657 km à l'est de Kinshasa. Annonce faite mardi à la presse locale par le chef de ressort de la DGRAD, Idiofa. Ceci intervient une année après l'installation de leur équipe dans cette entité. Pour Pascal Kassamba, on enregistre une augmentation de plus de 50% des recettes durant cette période. Il déplore par contre l'incompréhension de certains assujettis et la non-collaboration de certains services taxateurs. Pascal Kassamba n'a pas donné la somme globale de recettes réalisées.
Au Sud Kivu, l'heure est à la restructuration du groupe chargé de la thématique mine au sein de la société civile. Un atelier de restitution et renforcement institutionnel de ce groupe de travail a eu lieu depuis lundi à Bukavu. L'objectif était d'aider à promouvoir la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance dans le domaine des ressources naturelles, spécialement dans l'exploitation et le commerce des minerais.
Direction Lubumbashi au Katanga, à présent où 5 parlementaires tanzaniens ont sillonné donc depuis mardi. Ils sont venus évaluer les travaux du bureau de liaison du port de Dar es Salaam implanté à Lubumbashi depuis près de 6 mois après son installation. L'objectif de ce bureau était de faciliter le travail des opérateurs économiques de Lubumbashi qui font transiter leurs marchandises par le port de Dar es Salaam. Cependant, pour les importateurs, bien que ce bureau soit opérationnel, plusieurs services n'y sont pas encore implantés, ce qui pousse toujours les opérateurs économiques à faire les déplacements de Tanzanie pour déclarer leurs marchandises.
Merci François, et ce sera le dernier tournant de panorama économique cette semaine. Gabi Kouba analyse l'actualité avec nous, c'est un technicien des ressources minières. Gabi, un petit mot à placer, sinon on va terminer l'émission.
Oh, ça va, merci beaucoup de m'avoir reçu l'invitation. Je crois que je reviendrai prochainement avec le même plaisir pour commenter l'actualité économique avec vous.
Et je pense, Gabi, je voulais vérifier une chose avec vous par rapport aux mines, aux entreprises minières. Nous avons eu une certaine statistique publié la semaine passée qui disait que la GKMine a doublé sa production. Vous êtes un technicien.
Oui, effectivement, j'ai suivi j'ai regardé ces chiffres, mais ça m'a un peu laissé perplexe. Je n'ai pas encore eu vraiment des données fiables, mais j'ai vu que la production de la GKMine, par exemple, qui était inférieure à la production artisanale au Katanga, et juste après la révocation des calèges Nkand, la GKMine a pratiquement doublé sa production. C'est un peu étonnant. En un mois, parce que ce qui est reproché à Kalenkan, c'est le détournement des deniers publics qui étaient destinés à l'achat des engins. Et s'il fallait, par exemple, acquérir de nouveaux engins, les mettre en service, les confier, produire, et à peine en un mois, on passe de 500 à 1200 tonnes de cuivre et de cobalt. Je suis un peu dubitatif, mais comme on l'a dit, il y a un adage qui dit, le sage, que je n'ai pas la prétention d'être, que n'affirme rien qui ne soit prouvé. Et comme je serai au Katanga la semaine prochaine, je pense que je serai en contact avec les responsables de la GKMine pour qu'on me présente des données fiables. Sinon, ces discours pourraient ressembler plus à une propagande qu'à une véritable action de la GKMine. Je suis un peu perplexe en ce qui concerne ces chiffres-là, mais je vais vérifier la semaine prochaine. Je reviendrai avec le même plaisir pour vous apporter l'éclairage quant à ce qui concerne ces productions. Mais si l'actuel comité de gestion l'a fait, coup de chapeau, ce qui veut dire qu'en un mois, la production passe de 500 à 1200, c'est-à-dire
en une année,
lorsqu'on calcule, En tout cas, le Congo sera vraiment le premier pays producteur du cuivre. C'est-à-dire on va bousculer la Namibie, les Pérou et le Chili. Donc on va reprendre
l'impérium.
Je ne veux même pas dire reprendre la place d'antan, parce que d'antan c'était 470 000 tonnes. Mais aujourd'hui, on parle de 1 million et ainsi de suite, même si on avoisine 1 million. Bon, coup de chapeau au comité de gestion s'il l'a réellement fait. Mais si on ne l'a pas, on l'a pas réellement fait, alors c'est très inquiétant pour la suite.
Merci Gabi Kouba, merci à vous chers auditeurs de votre attention à l'écoute de Panorama Économique sur Radio Capi. Prochain rendez-vous avec l'actualité économique lundi à vendredi 18h15 heure de Kinshasa. Mais en attendant, retrouvez tout le week-end, toute la semaine Panorama Économique sur www.radioocapi.net. Tout le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. Merci et au revoir.